esas gracias que me das, yo te respondo nada de nada.
Bonjour à tous et bienvenue sur Micro Rebelle pour cette nouvelle émission Micro Littéraire. Vous venez d'entendre la chanteuse Anna Molly qui nous a interprété Gracias y de nada, qu'on pourrait traduire par merci et de rien. Vous savez que comme ce cycle micro littéraire est consacré à la révolte des pendus qui se passe avec les Indiens du Chiapas, nous avons choisi de diffuser de la musique libre. Et notamment de la musique libre d'Amérique latine. Nous poursuivons donc notre émission autour de la révolte des pendus de Beethoven. On a démarré la semaine dernière, on vous a fait partager des extraits du début du livre. On a pu apprécier, à l'occasion du début de ce livre, l'histoire des Indiens du Chiapas, au début du siècle dernier, des Indiens qui travaillent comme des esclaves, dans des monterias. Des monterias, ce sont ces exploitations de production de bois d'acajou. L'acajou, c'est la caoba. La révolte des pendus fait partie du cycle de la caoba de Beethoven. On est donc à l'époque de la révolution mexicaine, en 1911, et Beethoven voue à ses Indiens une tendresse infinie. Je vous propose de continuer à dérouler pas à pas ce magnifique roman. On va d'abord se remémorer le contenu du début de ce roman, La révolte des pendus. Donc ce sont les Indiens du Chiapas, ils sont embauchés sous contrat, mais c'est un contrat un petit peu spécial. On leur avance une somme d'argent qu'ils doivent donc rembourser, et on leur en promet une autre somme en fin de contrat. Mais ils doivent tout payer durant leur travail, la nourriture, les haches, les machettes, les vêtements. Ce qui fait qu'ils sont toujours endettés et donc ils doivent toujours continuer à travailler. Donc leur travail, on l'a vu, ça consiste à abattre des arbres et à traîner ces arbres près du fleuve de façon à ce que, à la saison des pluies, les arbres puissent être transportés et ensuite mis en production, abattus, transformés en mobilier. Donc ceux qui abattent les arbres, ce sont les bûcherons, les hacheros, qui ont les haches, et les macheros, ceux qui ont des machettes. Et ceux qui traînent les arbres vers la rivière, ce sont les boyeros, les bouviers, avec les bœufs, les bouviers. Les exploitants agricoles, les exploitants, ou on pourrait même dire les exploiteurs, dans ce cas précis, ce sont les frères Montelanos, ce sont des Espagnols. Ils sont propriétaires des forêts, et dont, au début du roman, une partie de leur exploitation est inutilisable du fait des intempéries, des grandes inondations. Donc la décision a été prise de ramener tous les Indiens qui travaillaient sur cette partie de l'exploitation inutilisable vers les autres parties. Avec cependant une contrepartie assez redoutable, on va demander à chaque Indien de doubler sa production. Autrement dit, en concentrant la production sur une partie seulement de l'exploitation, on leur demande d'abattre 3 ou 4 tonnes d'arbres par bûcheron et par jour, alors que d'ordinaire, ils doivent en abattre 2 tonnes, ce qui est déjà un volume assez conséquent et même un volume extrêmement difficile. On va donc écouter un extrait du chapitre 5 qui va nous permettre de comprendre le titre du roman, La révolte des pendus.
Les Indiens, assis en rond autour du feu, relevèrent brusquement la tête, comme s'ils venaient d'entendre le miaulement d'un tigre dans la brousse. « Qu'est-ce qu'il y a là-bas dans le buisson ?» demanda Antonio, un Indien sactant dont les oreilles se dressèrent comme celles d'un chien de chasse. « Est-ce que tu parles de gémissements ? Des plaintes et des gargouillements qui viennent des buissons en bordure du fleuve ?» interrogea Santiago en relevant les sourcils. « Oui, c'est ça que je veux dire. On dirait qu'on martyrise des animaux et qu'on leur bâillonne le museau. »« Tu Dieu !» ironisa Santiago. « Tu peux dire que tu as l'oreille fine, camarade. Tu peux sûrement entendre une puce danser dans le zapateda d'eau sur un chiffon de soie. Avec une oreille pareille, tu arriveras à quelque chose. D'ailleurs, tu ne t'es pas trompé, muchacho. » « Oui, tu as parfaitement entendu, » approuva Mathias. « C'est exact. On martyrise des animaux et on leur a muselé la gueule pour étouffer leurs cris qui pourraient gêner Don Alcacio pendant qu'il s'escrime entre les cuisses grassouillettes de sa Christina, celle qui a le nez de travers. Nom de Dieu, ce qu'elle peut être grosse, celle-là. Mais son cul a sûrement des charmes, car il doit bien savoir pourquoi il la traîne partout avec lui et lui achète des caisses de savon parfumé chaque fois que le Turc passe par ici. « Et pourquoi tourmente-t-on ces pauvres bêtes ?» interrogea encore Antonio. Les boyeros se mirent à rire bruyamment. « Les pauvres bêtes ?» répondit Santiago. « Oui, les pauvres bêtes sont cruellement martyrisées, et c'est pourquoi on les entend crier et gémir malgré leurs muselières. » Et il partit d'un nouvel éclat de rire. « Mais ce ne sont pas des agnelets à la blanche laine, » expliqua Pedro. « Des bêtes ? De pauvres bêtes ? Non, ce ne sont pas des animaux qu'on tourmente et qui crient, bande d'ânes. Ce sont 20 bûcherons, 20 hacheros qui hurlent. On les a pendus pour 3 ou 4 heures parce qu'ils n'ont produit ni aujourd'hui, ni hier, ni avant-hier les tonnes de caoba qui leur étaient commandées. Pauvres innocents !» « Ignorant que vous êtes, vous apprendrez vous aussi, d'ici 3 jours, ce que représentent 4 tonnes. 2 tonnes, c'est déjà la production plus que normale d'un bûcheron exercé et fort comme un bœuf. Et maintenant, ce chien puant de Don Acacio veut qu'on abatte 4 tonnes dans une journée. Celui qui n'y arrive pas, on le suspend pendant la moitié de la nuit à un arbre, ficelé aux 4 membres, et même aux 5 pour ne rien oublier, et la tête encore par-dessus le marché. Alors, les moustiques viennent rôder autour. Dame, ça se passe au bord du marais. Sans compter les fourmis rouges qui accourent par bataillon. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus long. Dans moins d'une semaine, vous en saurez autant que moi, et par expérience personnelle. Après cela, vous serez initié à tous les mystères d'une monteria appartenant aux frères Montellano, vous serez les soldats du régiment des pendus des Colgado. Je croyais qu'on fouettait seulement, comme dans les fincas et dans les camps de rebelles. » C'était Martin Trinidad, qui semblait par ailleurs assez bien informé. Martin Trinidad était l'un des 3 hommes dépenaillés qui s'étaient joints à la colonne en cours de route et que Don Gabriel avait conservé sans contrat visé. Pendant les 3 longues semaines qu'avait duré la marche dans la brousse, les 3 vagabonds avaient à peine échangé une parole avec les Indiens. Ils étaient toujours restés l'un à côté de l'autre, parlant entre eux, sans paraître se préoccuper des autres. À présent, et pour la première fois, Martin Trinidad s'adressait à eux. Santiago le regarda les yeux à demi fermés, l'air méfiant, avec la prudence que le vrai prolétaire éprouve pour un mouchard. « D'où viens-tu donc, hombre ?»«
Je suis de la province du Yucatan. » »«
Nom de Dieu, c'est loin !»« Et comment es-tu venu dans cette région ? » ?»« Évadé ? Fugitivo ? » ?»«
Mettons que je sois parti, frère. » »«
Bien, mettons. » »« Eh bien, quand tu auras été pendu au moins 3 fois, à ce moment, je commencerai à te croire. » Parce que vois-tu, petit frère, celui qui ici n'est ni pendu ni fouetté, celui-là, c'est sûrement un gars qui est louche. Et encore, recevoir des coups de fouet, cela ne prouve rien. Mais être pendu, dûment et correctement pendu, comme savent pendre El Rasgon, la Mecha et El Faldon, ça, c'est autre chose. Après cela, il n'y a plus de comédie qui tienne. Je pense que tu me comprends et que tu sais ce que je veux dire. Celso et Andreu auront du reste encore une petite conversation avec toi et tes 2 copains afin qu'on sache mieux qui vous êtes. Ici, personne n'a peur de rien et nous n'avons pas notre pareil pour couper gentiment la gorge à quelqu'un par une belle nuit d'été. Ça se passe à 20 pas des huttes et l'intéressé ne sent rien. Il ne se rend même pas compte de la façon dont l'âme puante d'un mouchard descend aux enfers. Vois-tu, nous, on se fout de tout. On ne nous tirera pas dessus, tu penses, sur des gens de qui on attend une production de 4 tonnes par jour. Un mort ne peut plus abattre d'armes, n'est-ce pas ? Tout ce qu'on peut nous faire, c'est nous pendre. Et nous en avons tellement pris l'habitude que cela nous est complètement égal. Autrefois, on nous souhaitait sauvagement, tant qu'on pouvait, quand nous n'avions pas abattu plus de 2 tonnes. Mais nous nous y étions accoutumés aussi et cela ne servait plus à rien. Au contraire, plus ils frappaient, moins on produisait. C'est alors que les Montellano sont venus avec leur nouvelle invention, la pendaison. C'est terrible, c'est épouvantable, mais seulement pendant que tu es pendu. Dès le lendemain, tu peux de nouveau travailler et tu les abats alors tes 4 tonnes. Tu sors de ta hutte 3 heures avant la nuit, fatigué, esquinté. La pendaison a un résultat si efficace que le souvenir seul et la peur d'être pendu de nouveau te rendent capable de fournir 4 tonnes. Alors qu'avec 1 tonne, tu as déjà les poignes tout écorchées. Seulement, nous sommes près du moment où même la pendaison ne servira plus. Avec Celso, par exemple, il n'y a plus rien à faire. Quand on l'a pendu pendant 4 heures et que El Guapo s'amène pour le détacher, Celso l'engueule. Hey, « Hé, fils de poufias, tu viens maintenant où je commençais juste à me sentir si bien que j'étais sur le point de m'endormir. Et alors, salaud ? C'est le moment que tu choisis pour venir me troubler dans mes rêves. » C'est Celso le premier qui a commencé à s'aguerrir. Maintenant, nous sommes une bonne demi-douzaine comme lui. Le secret, le voilà. Les hommes peuvent devenir comme les bœufs et les ânes qui restent impassibles quand on les bat et les aiguillonne. Dès qu'ils ont réussi à refouler au fond d'eux-mêmes tout instinct de rébellion. Martin Trinidad ne répondit rien.
Qui va maintenant suivre, on va comprendre le rôle des boyeros. Les boyeros, ce sont les bouviers, hein, les bouviers comme bœuf, comme bœuf. Donc, ce sont des Indiens et leur rôle, c'est d'amener les trozas, les troncs d'arbres, les troncs d'acajou, qui ont été abattus par les bûcherons, d'amener donc ces trozas aux tumbos. Les tumbos, ce sont les quais le long du fleuve. Hein, les boyeros entassent les troncs le long du fleuve, de façon à ce que les troncs, ensuite, grâce à la rivière, sont acheminés vers les unités de production. Donc, dans l'extrait qui va suivre, on a une conversation entre Don Severo, l'un des trois propriétaires, hein, l'un des trois frères Montelanos, une conversation entre Don Severo et des capataces. Alors, bon, j'emploie un peu de vocabulaire, hein, les capataces, un capataz, des capataces. Les capataces, ce sont les contremaîtres qui sont chargés de faire travailler les Indiens.
Le mois d'août tirait à sa fin et Don Severo avait décidé de commencer à mettre les radeaux à l'eau dès la semaine suivante, si les pluies cessaient. Accompagné de quatre capataces, Don Acacio parcourait à cheval la Monteria pour inspecter les camps et voir si toutes les trozas étaient réunies, prêtes à naviguer. À sa grande fureur, il constata que dans le camp ouest, il y en avait plus de 200 éparpillés sur le sol, à l'endroit même où elles avaient été abattues. Les boyeros expliquèrent qu'ils avaient eu beau charroyer nuit et jour, il ne leur avait pas été possible de les transporter toutes aux tumbos. Les trozas étaient si profondément enfoncées dans le sol fangeux que c'eût été un tour de force d'en transporter plus de 4 en une journée. Don Acacio réunit les capataces du camp et leur demanda ce qu'ils avaient fait pendant tout le temps du travail. Ils s'excusèrent en alléguant qu'ils avaient dû passer la plus grande partie du temps sur le dos des bûcherons pour obtenir la production demandée. Par conséquent, ils n'avaient pu surveiller les charrois, ne pouvant être partout à la fois. Et ils n'étaient que 2. Ils prièrent Don Acacio de se rendre compte de l'état des pistes entièrement noyées, qui se détrempaient chaque jour un peu plus et rendaient le transport difficile, ce qui était normal puisqu'on était en pleine saison des pluies. Les bœufs eux-mêmes étaient épuisés, et les boyeros avaient dû traîner les arbres à bras. « Bien sûr, bande de poivreaux, de feignants, de coureurs de garces. Pendant la saison sèche, vous ne faites que boire et dormir, et naturellement, quand les pluies arrivent, vous avez du retard. Qu'avez-vous fait quand il ne pleuvait pas ?»« Mais, patron, voici des mois qu'il pleut dans notre district, » protesta El Doblado. « Nous n'avons ni bu, ni forniqué, car il n'y a ici ni aguardiente, ni fille. Ferme ta sale gueule, sinon je te la laboure à coups de fouet, insolent. Je vous déduirai 3 mois à chacun. Tu ne t'imagines pas que je vais vous payer à ne rien foutre. » Comme vous voudrez, patron, répondit El Doblado. Mais si vous voulez nous déduire quelque chose quand nous ne sommes pas coupables, eh bien, je m'en irai et le copain avec moi. El Chapapote et moi, nous retournerons d'où nous sommes venus, ça c'est réglé. Ouais, vous croyez cela ? S'emporta Don Acacio. Vous avez un solde débiteur, que je sache. C'est exact, reconnut El Chapapote. Nous avons encore un solde débiteur, mais je ne me laisserai pas enlever quoi que ce soit, même pas une journée. Eh bien, soit, foutez le camp, voyou. Vous pourrez raconter à Ukutsin que je vous ai saqué pour paresse et ivrognerie. Mais les chevaux resteront ici. Vous traverserez la brousse à pinces, à 4 pattes si vous le voulez, et un de ces 4 matins, j'aurai le plaisir de trouver votre carcasse nettoyée par les vautours. Et maintenant, rompez au travail. Envoyez-moi quelques boyeros par ici. 2 boyeros se présentèrent au bureau une demi-heure plus tard. « À sus ordenes, patron, » firent les hommes en entrant. « Écoute bien ce que je vais vous dire. » Don Acacio s'avança vers les 2 bouviers, les prit chacun par une oreille et les tira à lui. Puis il les secoua comme s'il avait voulu leur arracher les ouïes. Les bouviers se tournèrent, se courbèrent et tentèrent d'empoigner leur tortionnaire par le bras. Enfin, Don Acacio lâcha prise. « Demain matin, il faut que toutes les trozas qui sont encore en vrac soient rendues aux tumbos. Sinon, je vous promets une petite fête comme vous n'en avez encore jamais eu. Oust et prévenez les autres. » Les 2 hommes répondirent d'une seule voix. Bien, patroncito, nous ferons comme vous avez ordonné. Tout cela, c'est de la paresse, et je veux en finir une bonne fois avec votre paresse. Don Acacio rentra dans la hutte qui servait d'officina et s'assit à la table. Au dehors, la pluie avait repris. L'eau tombait à seaux. Le terrain autour de l'officina et des huttes se transformait rapidement en lac. Don Acacio se fit apporter par un serviteur une bouteille de comis teco qu'il avait emportée dans ses bagages et tout en se réchauffant l'intérieur, il parcourut la liste des travailleurs. De temps en temps, il se levait, allait jusqu'à la porte et regardait le lac s'étendre de plus en plus. L'eau finit par envahir la hutte. « Nom de Dieu de temps !» jura-t-il. Puis il lampa une sérieuse gorgée d'alcool, s'ébroua et cria dans la direction des cuisines. « Hé, Pedro, quand vas-tu m'apporter à bouffer ? En voilà une boîte ici !»« Tout de suite, jefe, » répondit Pedro. « Dans un instant, ça sera prêt. Le feu vient de s'éteindre et le café s'est renversé. C'est bon, dépêche-toi, je crève de faim. »
L'extrait qui va maintenant suivre va également faire référence au titre du livre, tout au moins au mot « révolte » du titre « La révolte des pendus ». Urbano, un Indien, s'est sauvé et a été rattrapé. Don Acacio, l'un des trois frères Montelanos, autrement dit l'un des trois propriétaires, s'apprête à le fouetter comme punition. Mais il se passe dans cet extrait quelque chose de tout à fait nouveau. Jusqu'à présent, les Indiens ne se révoltaient pas. Les Indiens étaient dociles, ils encaissaient sans rien dire. La nouveauté ici, c'est que Urbano ne veut plus goûter au fouet. Il se rebelle et finit par attacher Don Acacio à un rocher. Je vous laisse écouter la suite.
Urbano ramassa la pierre et marcha droit sur Don Acacio. « Tu ne vas pas faire cela, chien !» hurla Don Acacio. « Non, » répondit brièvement Urbano. « Non, ce serait trop bon pour toi. Trop bon pour un ladino sans âme. » Urbano laissa tomber la pierre. Don Acacio respira. Mais Urbano porta son regard vers le fleuve. Il vit quelque chose que Don Acacio ne pouvait pas apercevoir, parce que son visage était tourné vers le talus et parce que, ficelé comme il l'était, il ne pouvait tourner la tête. Il remarqua simplement qu'Urbano ouvrait une grande bouche, tandis qu'une lueur cruelle passait dans ses yeux. L'Indien eut un mouvement d'épaule et, presque sur la pointe des pieds, il pénétra dans l'eau, comme s'il avait voulu surprendre et capturer un animal. Peut-être était-ce un serpent. Mais ce n'était pas un serpent. C'était une branche qui flottait. Une branche pourvue d'épines longues comme le doigt et dures comme l'acier. La branche avançait, reculait, se rapprochait du bord et s'en éloignait aussitôt. Urbano fit un bond et la saisit au moment où elle allait s'éloigner une fois de plus et se laisser entraîner dans un tourbillon d'écume. Puis il revint auprès de Don Acacio et lui mit la branche sous les yeux. « Vois-tu ces épines, verdugo, bourreau ?» Il entr'ouvrit ses lèvres et grinça des dents. « Tu vas me délivrer par la Madone !»« Dans une minute tu seras délivré, bourreau !» dit Urbano, en détachant une longue épine de la tige. Il la prit entre ses doigts, en la faisant dépasser de sa main fermée et l'approcha si près du visage de Don Acacio que ce dernier sentit la pointe lui effleurer la joue. « Avec cette épine, je vais te crever tes yeux de bête fauve. Tu ne verras plus jamais fouetter ni prendre un muchacho. Tu ne verras plus jamais briller le soleil. Tu ne verras plus jamais les traits de ta mère. « As-tu perdu la tête, muchacho ?» demanda Don Acacio qui avait pâli soudain. « Nous autres, les muchachos, nous avons tous perdu la tête. » C'est vous qui nous avez rendus fous. Oui, tous fous. Tu sais très bien que tu seras fusillé, qu'on te coupera la tête. Personne ne me fusillera. Personne ne me coupera la tête. Personne ne me fouettera même. Je te volerai jusqu'à ta vengeance, bourreau sauvage. Car ensuite je me jetterai dans le fleuve. Et vous pourrez toujours venir m'y chercher. Tous les supplices ne me toucheront guère alors. Mais au nom de la Vierge, muchacho, ne fais pas cela. Tu irais en enfer. Au nom de tous les saints, ne fais pas cela. Don Acacio avait pris une voix plus douce pour prononcer ces dernières paroles. Urbano parut craindre de faiblir. Peut-être eut-il peur aussi qu'on vînt porter secours à Don Acacio. Alors il se jeta sur lui. Don Acacio poussa un cri perçant. Ce n'était pas un cri de douleur, c'était un cri d'horreur, de terreur folle. Pour la première fois de sa vie, Don Acacio connaissait la peur. Sans reprendre son souffle, Urbano bondit une deuxième fois. Le sang jaillit des orbites de Don Acacio. Il rejeta la tête en arrière parce que le sang commençait à lui couler dans la bouche. Et il murmura « Madre Santissima, Madre de Nuestro Señor ». Urbano leva les yeux et vit une tête, celle d'un homme immobile qui le regardait. Alors, rapidement, il desserra la cordelette qui lui servait de ceinture et soutenait son pantalon usagé et déchiré. Il ramassa la pierre et l'introduisit dans son pantalon. Puis il s'entoura les hanches avec la corde du lasso de Don Acacio pour maintenir la pierre en place et descendit dans le fleuve. Le courant le saisit, le souleva à plusieurs reprises avant qu'il eût atteint le milieu des eaux. Sa tête émergea une fois encore, puis il coula.
Ainsi, dans sa révolte et avant son suicide, Urbano a donc défiguré Don Acacio, auquel il a crevé les yeux. On vient de l'entendre. Don Acacio n'a pas supporté et s'est suicidé à son tour avec son revolver. Dans l'extrait suivant, à l'occasion de l'enterrement de Don Acacio, ses deux autres frères, les frères Montelanos, évoquent le contexte de la révolution mexicaine.
Don Severo et Don Félix vinrent assister aux obsèques de leur frère. Il fut enterré dans le cimetière où l'on ensevelissait les muchachos qui mouraient au campement. Les tombes étaient toutes les mêmes, mais pour un personnage important comme Don Acacio, on plantait une croix de dimension plus imposante et l'on entourait le tumulus d'une grille solide et serrée pour empêcher les sangliers de dévorer le cadavre. De plus, on recouvrait la tombe de pierre. Quand Don Severo arriva à l'officina, il posa d'abord cette question. « Est-ce que les muchachos ont vu ce qui est arrivé à Don Acacio ?»« Non, répondirent ensemble El Pechero, El Faldon et la fille. Non, et personne de nous ne leur en a soufflé mot. » Les muchachos apprirent la mort du patron par le cuisinier et sa femme le soir à la cuisine, après le retour du travail. Mais le cuisinier ne connaissait pas les circonstances de la mort de Don Acacio. Et, la nuit même, le bruit courut dans le camp que Don Acacio avait eu une dispute terrible avec sa mouillère, qu'elle avait pris un revolver et que le coup était parti au moment où il tenait, où il tentait de lui arracher l'arme des mains. Le soir venu, Don Severo dit à la fille et au capataces ainsi qu'à Don Félix « Vous allez garder la chose secrète. Si les muchachos avaient vent de l'histoire, ça pourrait devenir dangereux pour nous tous. Des trucs comme ça, c'est contagieux. Et si les muchachos venaient à savoir quelque chose, il est possible, on peut même dire certain, qu'ils imiteraient l'exemple d'Urbano. Je dois d'ailleurs vous dire que j'ai reçu des lettres qui n'étaient pas précisément rassurantes à lire. Les journaux arrivés par le dernier courrier sont muets. Ils ne disent rien à ce sujet, car ils ne peuvent imprimer que ce que le vieux cacique veut bien laisser passer. Il n'est pas seulement le maître du pays, mais surtout celui des journaux et des livres. Mais les lettres sont moins prudentes, et elles donnent à penser. D'ailleurs, dans les journaux eux-mêmes, on peut quelquefois lire entre les lignes. Ici, on a arrêté 3 maîtres d'école et on les a envoyés dans les camps de concentration de la Veracruz ou de Yucatan. Là, ce sont 2 professeurs qu'on a enfermés dans une caserne et dont on n'a plus jamais eu de nouvelles. ou bien ce sont tous les hommes d'un village de district de Morelos que les rurales, les gardes du corps et la police spéciale du vieux sont venus arrêter. On en a pris 20 au hasard et on les a pendus à un arbre de la grande place. On parle aussi d'un train qu'on a fait dérailler, d'une bombe qui a explosé dans la chaudière d'un navire, d'une autre au poste de police de Puebla. À Monterrey, on a saisi une voiture entière de tracts qui incitait à la révolution et à la rébellion contre le dictateur. Le conducteur de la voiture, qui était peut-être innocent, a été fusillé sur le champ. Voilà ce que m'a apporté le dernier courrier. Je ne crois pas avoir besoin d'être un grand prophète pour vous dire que tout est en train de craquer. Si le trône du vieux vacille et s'effondre, alors toute la République sera en feu. Et comme depuis des années, personne n'a appris à penser parce que c'était interdit de penser, elle brûlera jusqu'à ce que tout soit consumé et nous avec. Félix, tout ça est dit. Tout cela est bel et bien, petit frère. Mais nous le savions déjà la dernière fois, quand nous sommes allés à Villa Hermosa et quand nous avons acheté les Monterias. C'est exact, riposta Don Severo. Mais maintenant, les choses m'ont tout l'air d'être sérieuses et de tourner rapidement au désordre. C'est pourquoi je vous conseille à tous, particulièrement à toi, Félix, et à toi, Picaro. Et à vous, Gusano et Pulpo, de rendre un peu la bride. Traitez les muchachos un peu moins durement. Il y a quelque chose dans l'air qui ne me plaît pas du tout. L'attentat de Pascasio contre la Mecha, le crime d'Urbano sur la personne de Don Ancasio, tout cela, c'est une très sale affaire. Il y a 6 mois, personne n'aurait osé, je dis osé, lever le petit doigt. Et maintenant, voilà qu'ils ont l'audace d'attaquer et de tuer. Mes amis, pour parler franchement, je crois bien que nous sommes assis sur un baril de dynamite, que jaillisse une étincelle et nous sautons tous. Alors, il ne restera rien de nous, pas même un poil de barbe. Si jamais il y a du grabuge dans une des fincas aux environs, et si quelques-uns des gars rappliquent par ici, nous aurons encore bien de la chance si nous avons le temps de faire comme Don Cacho a fait hier. Bien, j'ai fait, dit El Picaro. Mais que faire alors? Nous sauver peut-être? Ah, bien sûr que non, tête d'âne. Est-ce que tu crois que nous allons abandonner comme cela notre argent? Nous avons encore quelques milliers de tonnes de bois prêtes à être mises à l'eau. Et ce n'est pas précisément pour payer des avances à ces fainéants d'Indiens que nous avons travaillé. « Alors donnez-nous des instructions, Don Severo, » répondit El Faldon. « Mais je viens de vous le dire. Dans les quelques semaines qui vont suivre, allez moins fort, freinez. Si les gars ne peuvent fournir 4 tonnes, contentez-vous de 3 ou de 2 s'il le faut. Vous continuerez à les engueuler comme par le passé, mais pour le moment, pas de fouet, pas de pendaison inutile. Il reviendra, soyez tranquille, le temps où nous exigerons de nouveau les 4 tonnes par jour. » Après l'inondation. Entre-temps, l'atmosphère se sera un peu éclaircie dans tout le pays et peut-être le petit Madero sera-t-il mis à la raison. C'est un abo qui est à peine fichu de voir plus haut qu'une table. Mais c'est peut-être justement pour cela qu'il a réussi à allumer un feu aussi dangereux sous le fauteuil même du vieux, qui est en train de chavirer comme si une guêpe lui avait enfoncé son dard dans le trou du cul. Pourquoi ne l'a-t-on pas mis en prison ? Demanda Don Félix. Pourquoi ? Mais il a déjà été enfermé pendant 6 mois. Et naturellement, le nabo a gagné du coup des centaines de partisans et des adorateurs. Il a bien fallu que le vieux le relâche. Sans cela, ses amis auraient fait sauter les ponts, arroser les rues de pétrole et mis le feu partout. Que peut le vieux quand dans chaque coin, il y a un type avec une cartouche de dynamite ? C'est facile à s'en procurer chez les mineurs. Je ne sais pas et je n'ose même pas penser à ce qui arriverait ici si nous aussi nous avions besoin de dynamite dans notre travail. « Ah !» s'écria le chat papoté. « Vous êtes un peu énervé, Don Sevro, à cause de ce qui vient d'arriver à votre frère. Mais on ne nous intimidera pas si facilement. »« Ah ! Tu en parles à ton aise, chat papoté. Tu n'as rien à perdre, sauf ta culotte percée de trous et ornée de reprises. Mais ce n'est pas la même chose pour mon frère et pour moi. Nous avons investi ici tout notre argent, celui que nous avons mis 15 ans à gagner et en travaillant dur. Dans tous les cas, vous ferez comme je vous dis. » Tous ces temps-ci, un peu de douceur. J'ai parlé, vous avez compris ? Don Félix alla chercher deux bouteilles et remplit les verres pour donner à la séance un tour un peu plus sympathique.
On va maintenant avoir un autre écho du contexte de la Révolution mexicaine au travers de l'histoire de Martin Trinidad. Martin Trinidad, c'est celui qui en fait a assisté à l'agression de Don Acacio par Urbano. Il sait donc que la mort de Don Acacio n'est en rien un accident, comme veulent le faire croire ses frères aux Indiens. Martin Trinidad en a d'ailleurs profité pour subtiliser le pistolet de Don Acacio. On va donc ici en savoir un tout petit peu plus sur son histoire et sur ce qui l'a amené à la Monteria.
Ce soir-là, après avoir terminé son repas, Celso se roula quelques cigares, les rangea dans la poche de sa chemise et s'en alla du côté du fleuve. Il entra dans l'eau, profondément, ne laissant émerger que sa tête pour pouvoir fumer. Il s'était assis sur le fond de sable, pour tuer les tiques qui lui avaient pénétré dans la peau et qui étaient trop petites pour être facilement extirpées. L'eau lui faisait du bien. Elle calmait également les morsures de mosquitos et des grosses mouches qu'il avait dévorées dans la journée. Les insectes étaient particulièrement voraces pendant la saison des pluies et surtout plus nombreux que jamais. Pendant qu'il se baignait ainsi, l'odeur de son cigare le protégeait contre les moustiques qui bourdonnaient au bord du fleuve en essaim serré et qui paraissait apprécier la fraîcheur du soir autant que l'homme qu'ils a harcelé. Celso n'était d'ailleurs pas le seul à prendre le frais. Sur chaque rive, des muchachos se reposaient, accroupis sur le sable, isolés ou par groupe. Au bout de 5 minutes, un homme vint prendre place à côté de lui. C'était Martin Trinidad. « Hé, Celso, passe-moi ton cigare, je voudrais y allumer le mien. » Pourquoi ne l'as-tu pas allumé avant d'entrer dans l'eau ? Je l'avais fait, mais il s'est éteint. Au fait, d'où sors-tu exactement, compañero ? Je vais te le dire, Celso, et tu seras le seul à le savoir. Je suis de Pachuca, dans la région des mines d'argent. J'ai exercé la profession de maître d'école. Maître d'école ? Et à présent te voilà bûcheron dans une monteria ? Ouais, que veux-tu ? J'ai trop ouvert ma grande gueule, ou si tu préfères, j'ai propagé la vérité parmi les mineurs, qui pour la plupart étaient les parents de ceux que j'enseignais à l'école. La vérité ? Demanda Celso, subitement méfiant. Quelle vérité ? J'ai dit la vérité sur le dictateur et sur les droits du peuple. Je leur ai dit qu'un homme, aussi habile soit-il, aussi persuadé puisse-t-il être, qu'il a le droit de diriger tout un peuple, n'a pas celui d'opprimer l'opinion, la pensée, la parole, la volonté des autres hommes. Car chaque homme a le droit de dire ce qu'il pense, et chaque homme a aussi le devoir d'enseigner, d'expliquer aux autres hommes qu'ils sont mal gouvernés et qu'ils sont lésés. Et même si l'homme se trompe, même s'il a tort, il doit cependant lui restait le droit de dire ce qu'il pense et comment il croit que les choses pourraient aller mieux. C'est cela que tu as dit au mineur de Pachuca ? Demanda Celso en le regardant de côté. mais il faisait déjà trop sombre pour qu'il fût possible de distinguer l'expression de Martin Trinidad. Je leur ai dit cela, et encore beaucoup d'autres choses. Je leur ai dit qu'ils devaient cesser de descendre dans la mine, de travailler, pour que les propriétaires ne gagnent plus rien. Je leur ai dit qu'ils devraient demander une augmentation de leur salaire, l'autorisation de former des syndicats pour formuler des revendications collectives, parce qu'un homme isolé ne peut rien. L'un est fusillé, l'autre est jeté en prison, le troisième est fustigé jusqu'à la mort. Mais si tous réclament la même chose et se groupent pour présenter leurs revendications, alors il n'est plus possible de les fusiller, parce que dans ce cas, il ne resterait plus personne pour travailler et pour extraire le métal précieux du sol. Et si les propriétaires des mines veulent de l'argent, il faut qu'ils donnent aux mineros ce que réclament ceux-ci, ou bien ils ne travailleront pas. Et que disaient les mineurs quand tu leur expliquais tout cela ? Ils ont refusé d'aller au travail. Alors, les soldats sont arrivés et ont fusillé 10 mineurs. Les autres ont repris le travail parce qu'ils n'avaient pas de syndicat qui aurait pu grouper tous les mineurs. Mais toi, ils ne t'ont pas fusillé. C'est extraordinaire, tu ne trouves pas ? Fit observer Celso, de nouveau rempli de méfiance. Non, ils ne m'ont pas fusillé. Ils m'ont enfermé dans la caserne parce qu'ils avaient fouetté un minero jusqu'à ce qu'il avoua qu'il leur avait mis pareille idée en tête. Alors, ils m'ont emmené à la caserne et m'ont dit que je n'aurais pas la veine d'être fusillé comme les 10 mineurs ignares que j'avais entraînés. Pendant 3 jours entiers, ils m'ont torturé, fouetté et martyrisé. Quand un des sergents tortionnaires était fatigué, un autre venait le remplacer et cognait sur moi à son tour. Demain, au jour, je te montrerai les centaines de marques que je porte encore sur tout le corps. Il voulait me faire crier « Viva Don Porfirio !» J'ai refusé parce que je hais le cacique et que je ne souhaite que sa mort. Chaque fois que je pouvais ouvrir la gueule, c'était pour crier « Abajo, Porfirio !» ou « Que muere el tirano, abajo le aristocrates !» et « Viva la revolución de los proletarios !» Et chaque fois que je criais comme cela, ils me crachaient au visage ou me cinglaient de leur cravache. Celso demanda « Et alors, tu as réussi à t'évader ?»« Non, comment aurais-je pu le faire avec mes membres à moitié démolis ? Ils m'ont conduit à la gare avec peut-être une centaine d'autres, hommes ou tout jeunes gens, instituteurs, étudiants, ouvriers et paysans. À la descente du train, on nous a chargés sur un rafio, entassés les uns sur les autres, sans air et sans lumière. Par un hublot, ils nous jetaient des tortillas moisies sur lesquelles nous nous précipitions, en nous battant parce qu'il y en avait trop peu et que nous étions tous affamés. On nous déversait aussi sur la tête une marmite de haricots cuits que nous aurions dû happer au vol, mais qui nous tombait sur le crâne ou sur nos vêtements ou par terre à nos pieds. Et comme nous avions faim, nous ramassions les fèves de la saloperie du plancher où nous la mangions à même sur la tête de nos voisins. On ne nous donnait pas d'eau, on se contentait de vider sur nous, par le hublot, des baquets pleins d'urine. Enfin, nous sommes arrivés au camp de concentration de Yucatan. Nous avons dû travailler aux plantations et à la réfection des routes. On mettait 40 hommes devant de lourds rouleaux que 20 chevaux auraient eu du mal à tirer. Et pour nous faire avancer, on nous frappait à coups de fouet sous un soleil 1000 fois plus brûlant que celui d'ici. Tous les jours, il en mourait une dizaine. On tombait comme des mouches. Il y avait aussi des femmes parmi nous. On les fouettait, on les torturait comme nous. On les attelait au rouleau comme les hommes. C'étaient des ouvrières des tissages de Orizaba dont les hommes avaient refusé de travailler pour obtenir un peu plus de salaire et qu'on avait décimé. Les autres avaient dû reprendre le travail et comme punition, on avait encore abaissé leur salaire. Et comment as-tu fait pour t'échapper du camp de concentration de Yucatan ? Demanda Celso. Un jour, nous avons assailli 4 types de la police. C'étaient de jeunes froussards qui faisaient dans leur froc. Après les avoir tués comme de mauvais chiens, nous nous sommes enfuis à toute vitesse. Nous étions 30. Les autres muchachos n'ont pas eu le courage de nous suivre. Ils avaient trop peur. Sur le 30, pas mal ont été repris. D'autres ont été fusillés par derrière, par les rurales à cheval qui nous poursuivaient. D'autres se sont noyés en traversant un fleuve. Mais nous trois, Juan Mendez, Lucido Ortiz et moi, nous avons été assez malins pour nous écarter des grandes routes et continuer à marcher. Nous sommes arrivés à Campeche et puis enfin dans la région d'où tu es originaire. Là, nous avons rencontré Don Gabriel, l'Enganchador, qui nous est apparu comme le sauveur et qui nous a emmenés à la Monteria. Ici, du moins, on ne nous cherchera pas. Celso eut un rire étouffé. La bonne blague que tu me racontes là, compagnero. Bien sûr, on ne te cherchera pas ici, parbleu. Peut-être l'as-tu remarqué depuis, tu ne t'es pas évadé, tu n'as fait que changer de prison. Au lieu de s'appeler le camp de concentration de Yucatan, ou la vallée des morts de Ferracruz, ta prison s'appelle la Monteria, la Harmonia. À moins que tu ne vois une différence. Oui, répondit Martin Trinidad. Oui, je vois une différence. Ici, c'est pire qu'à Yucatan. Là-bas, on travaillait bien ou mal, comme on pouvait. Le travail était dur, on recevait des coups et peu de nourriture. Mais ici, chacun doit produire ses 4 tonnes. Et puis à Yucatan, ils n'avaient pas trouvé ce truc de la pendaison.
Notre émission se termine et j'espère que vous avez pris un certain plaisir à écouter ces extraits de La Révolte des Pendus, que ça vous donne envie d'aller plus loin, de vous intéresser à l'ensemble de l'œuvre de Beethoven. Les différents extraits qui vous ont été proposés aujourd'hui ont été lus par Barbara, Elsa et Nadine. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite de La Révolte des Pendus et je vous laisse en compagnie d'un nouveau titre de Anna Molly, notre chanteuse argentine, un nouveau titre qui s'appelle Capullo.
Se forma. De nunca acabar, de nunca acabar, de nunca acabar.